Chapitre 28. Il arrive, en de rares occasions, que Londres soit étouffant à la mi-août. Mais il y avait ce jour-là une fraîcheur dans l'air qui me rappela notre visite à la Royal Geographical Society 10 mois plus tôt. Certes, les feuilles des arbres ne changeaient pas encore de couleur, mais ils flottaient déjà comme un parfum d'automne, une odeur de fumée de feu de bois ou de charbon dans les maisons et les immeubles. Je portais mon deuxième plus beau costume. Le 3 pièces en lainage épais, puisque mon complet sur mesure avait disparu pendant mon absence. Et j'espérais qu'à cause du bref front froid, mon choix vestimentaire détonnerait moins. L'immeuble était bruni par l'âge et la suie, et son entrée très imposante. Des bruits de pas résonnaient sur les dalles et le marbre. Je prévins le planton que j'avais rendez-vous avec le chancelier de l'échiquier. Et il m'emmena jusqu'à un réceptionniste, qui m'emmena jusqu'à un employé, qui m'emmena jusqu'au secrétaire particulier, qui me fit asseoir sur un canapé de cuir usé dans une antichambre où j'attendis 2 ou 3 minutes avant d'être introduit dans le bureau du grand homme. Le chancelier de l'échiquier. Comme c'était malin de la part de Reggie et du diacre, de parler de leur ami commun qui signe beaucoup de chèques, mais qui préfère l'or. Cette dernière expression, comme je l'avais appris en posant des questions durant ma longue traversée solitaire entre l'Inde et l'Angleterre, était une référence à la décision du chancelier de l'échiquier, le ministre des Finances du gouvernement Baldwin, de rétablir l'étalon or pour l'économie britannique. Cela remontait au mois de mai, pendant que mes amis et moi escaladions l'Everest. Si Reggie et le diacre n'avaient pas appris la nouvelle, ils connaissaient la préférence du monsieur pour ce système monétaire. J'avais aussi lu des articles sur ce retour à l'étalon or, sur le tollé qu'il provoquait et l'opposition qu'il suscitait chez de nombreux économistes durant mon voyage de retour. Le secrétaire me laissa dans une vaste pièce au tapis usé, meublée d'un grand bureau avec son fauteuil, vide de son occupant. Au fond, un très gros bonhomme me tournait le dos. Il fumait un cigare devant la fenêtre couverte de suie, les jambes écartées presque en position de lutteur, ses mains grassouillettes jointes dans le dos. Environ 1 minute après que le secrétaire, l'assistant ou quel que soit son titre m'eût annoncé, le gros homme se retourna, me regarda de bas en haut, fronça légèrement les sourcils, à cause de mon costume de laine, et déclara « Perry ! C'est bien ça ?»«
Oui, monsieur. » »«
C'est gentil à vous d'être venu, monsieur Perry. » Il me montra une chaise d'aspect inconfortable pendant qu'il prenait place dans le fauteuil rembourré derrière son bureau. J'avais entendu le nom de Winston Churchill pendant les mois que j'avais passé à Londres avant le début de notre expédition, mais je ne me souvenais pas d'avoir vu des photos de lui. Je me rappelais vaguement les remous qu'avait causé dans la presse son retour chez les conservateurs, qu'il avait quitté quelques années plus tôt pour rejoindre les libéraux. Un jour où nous trions notre matériel d'alpinisme dans une chambre d'hôtel, le diacre avait ri en lisant le Times et nous avait cité Churchill. Tout le monde est capable de retourner sa veste, mais il faut une certaine ingéniosité pour la retourner 2 fois. Manifestement, il possédait cette qualité. Churchill avait été élu député Tory de la circonscription d'Epping et nommé chancelier de l'échiquier dans le gouvernement conservateur de Baldwin. La seule chose que j'avais apprise à propos de ce poste, c'est qu'il valait à Churchill le titre honorifique de « très honorable » et un logement de fonction au numéro 11 Downing Street, à côté du meublé du Premier ministre.
« Vous êtes américain, monsieur Perry. »
Était-ce une question ? Oui, monsieur le chancelier. J'avoue que si cet homme était le chef des services de renseignement pour lequel était mort Percival Bromley, et très probablement aussi l'ancien capitaine Richard Davis Deacon et Lady Catherine Christina Regina Bromley-Montfort, il n'avait pas le physique de l'emploi. Il m'évoquait un gros bébé en costume 3 pièces à fines rayures avec un cigare aux lèvres.
« Vous autres Américains me mettez, ainsi que le gouvernement de Sa Majesté, dans une position des plus effrayantes »,
tenait-il de l'autre côté de son vaste bureau. Il ouvrit une boîte à cigares et la poussa vers moi.
Un cigare, monsieur Perry? Ou une cigarette, peut-être?
Non, merci, monsieur le chancelier. Je n'avais aucune idée de ce à quoi il faisait allusion. Ça n'avait sûrement rien à voir avec l'enveloppe contenant les 7 photos compromettantes et leurs négatifs qui se trouvaient dans la grande poche de mon veston et que je devais lui remettre. En ce qui me concernait, je voulais en finir avec ça et quitter au plus vite ce bureau et cette ville.
« C'est la dette de guerre !» expliqua ce Churchill. « La Grande-Bretagne vous doit la ridicule somme de 4 933 700 642 livres. Rien que les intérêts annuels se montent à plus de 35 millions de livres. Et votre président, votre secrétaire d'État et votre secrétaire au Trésor exigent d'être payés en temps et en heure. Je vous le demande, monsieur Perry. Comment cela serait-il possible, tant que la France n'a pas remboursé au gouvernement de Sa Majesté, ce qu'elle lui doit au titre de sa dette de guerre? Dieu sait pourtant que la France obtient le paiement des réparations et sa part de l'acier allemand de la vallée de la Roure. Mais les Français sont aussi lents à payer qu'un locataire qui dépense son salaire à la loterie plutôt que de le donner à son propriétaire.
Je hochai vaguement la tête.
Ma gorge avait suffisamment guéri durant les semaines que j'avais passées en Inde puis en mer pour que je puisse parler d'une voix à peine plus rauque que la normale, mais j'ignorais quoi dire. Tout ce que je savais, c'était que l'enveloppe contenant les photos semblait creuser un trou dans la partie droite de ma poitrine, et que si ce gros bonhomme ne se taisait pas et n'arrêtait pas de souffler sa fumée de cigare dans ma direction, j'allais bondir par-dessus ce trop large bureau pour l'étrangler, et au diable l'amitié anglo-américaine. « Enfin, vous n'y êtes pour rien, vous n'y êtes pour rien !» dit le chancelier de l'échiquier. « Vous avez les éléments sur vous ?»
Violant sans doute 50 règles de l'espionnage, je demandais « Vous parlez des photographies et des négatifs de Lord Percival, monsieur ?»«
Oui, oui. »
Il écrasa son cigare et croisa ses doigts grassouillets sur sa poitrine. Je sortis l'enveloppe et la posai sur son bureau, aussi loin qu'il m'était possible, sans avoir à me lever. À ma grande consternation, Churchill n'accorda même pas un regard à l'enveloppe avant de la saisir et de la glisser dans un attaché caisse rouge posé à ses pieds.
« Eh bien, voilà !» dit-il. J'y vis sa manière de me congédier, et je me levai. « Nous sommes vendredi !» dit Churchill, sans même prendre la peine de se lever pour me serrer la main. Et je savais quel jour on était, c'était moi qui avais fixé le jour du rendez-vous avec ses sbires.
« Je crois que nous devrions discuter des circonstances entourant l'achat de ces éléments, » ajouta-t-il. « Vous avez des choses sur le feu demain ?»«
Des choses sur le feu ? Qu'est-ce que c'était que ces façons de parler ?» Je ne m'étais jamais senti aussi seul et perdu que ces derniers jours passés à attendre, à Londres, sans Jean-Claude et le diacre. Ces Britanniques parlaient un anglais étrange et ténébreux. Churchill dut remarquer mon air ahuri parce qu'il précisa
« Pour le dîner !»
« Non, monsieur le chancelier, » répondis-je avec un sentiment de découragement. Je ne voulais pas avoir de relations mondaines avec ce monsieur, à cause de qui, j'en étais sûr, trois de mes amis les plus chers s'étaient fait tuer, ainsi que le cousin d'une amie.
« Nous comptons donc sur vous pour faire un saut à Chartwell dans l'après-midi, » dit-il comme si l'affaire était entendue. « Clémy est absente ce week-end, mais nous avons quelques invités très amusants et bien sûr, les enfants seront là. » Venez partager un bon dîner, monsieur Perry. Restez pour la nuit et nous parlerons plus longuement quand nous aurons un peu d'intimité. Nous nous habillons pour dîner, »
précisa le chancelier de l'échiquier. J'avais lu quelque part qu'il avait 50 ans, mais son embonpoint, ses joues roses de bébé et son énergie le faisaient paraître beaucoup plus jeune.
« Avez-vous apporté smoking et cravate blanche à Londres ?»«
Non, monsieur le chancelier. » J'en avais déjà plein le dos d'appeler monsieur le chancelier ce rien du tout. Uniquement le costume que j'ai sur moi.
Churchill pencha la tête d'un air entendu, puis pressa un bouton sur son bureau. Le secrétaire qui m'avait fait entrer apparut comme par magie. « Colonel Taylor, » dit Churchill, « pourriez-vous emmener ce jeune homme chez mon tailleur de Savile Row pour qu'il lui procure une tenue de soirée convenable, ainsi qu'un ou deux costumes d'été, peut-être un pyjama et quelques chemises et cravates ?» Pour midi demain, s'il vous plaît. Et dites-lui que la facture sera réglée par le Trésor de Sa Majesté.
Je ne savais que penser de tout cela, et encore moins que dire. La seule réponse spontanée qui me venait, c'était « Je n'ai pas besoin d'une cravate blanche, ni d'un smoking, et bon sang, je n'ai pas besoin de votre charité. » De sorte que je me contentais de hocher la tête vers Churchill, qui avait allumé un nouveau cigare et parcourait déjà des papiers. Juste avant de quitter le bureau, je me retournais et lançais « Attendez, encore une chose. » Churchill leva vers moi son visage rond au petit sourire de chérubin et attendit. « Qu'est-ce que Chartwell et où le trouver ? » m'entendis-je demander.